L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Depuis que j'ai créé Volant, il y a un sujet que je voulais traiter, qui est l'éducation. Parce que l'éducation, ça me semble essentiel, à la base de tout. Et en même temps, je me posais la question de qui recevoir. Et aujourd'hui, je reçois Zeynep Busson, qui est une auteure qui a écrit un bouquin qui s'appelle Exploring the Future of Education et qui a également créé une structure qui s'appelle LearnSpace, qui est finalement un accélérateur de start-up dans l'éducation. Et ensemble, on parle du futur de l'éducation, des modèles qu'elle a pu voir dans d'autres pays et comment on peut s'en inspirer, des profils atypiques d'enfants. On parle aussi des grandes écoles un peu plus tard. Simplement, avant de vous laisser avec cette conversation, je voulais vous demander, je ne fais pas très souvent, mais si vous pouviez, et ça aide vraiment beaucoup ce podcast, de laisser des commentaires sur Apple Podcast avec des petites étoiles ou avec un commentaire. Ça permet aux autres personnes de découvrir le podcast et de le faire remonter dans les algorithmes, hein, pour être tout à fait honnête. Donc ça m'aiderait pas mal. Voilà, je vous laisse avec cette conversation. Allez, Volant, c'est parti. Donc bonjour Zeynep.
Bonjour.
On va parler d'éducation et ça tombe bien parce que toi tu as écrit un bouquin qui s'appelle Exploring the Future of Education où tu as finalement fait le tour des pays de l'Europe pour voir quelles étaient les meilleures pratiques dans ces différents pays et c'est quelque chose que tu continues à faire parce que tu pars bientôt en Afrique pour faire la même chose. Tu as aussi créé une boîte qui s'appelle LearnSpace où tu accélères des startups dans l'éducation. Et en fait, ce sujet de l'éducation, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le traiter. En réalité, parce que ça me semble évidemment essentiel. Et en même temps, comme c'est un sujet que je maîtrise pas, parce que j'ai pas d'enfant et que voilà, je savais pas qui inviter. Et donc on m'a dit non mais faut absolument que tu rencontres Zeynep. Donc voilà, on le fait. Donc je suis ravi. Et donc évidemment la première question que j'ai à te poser, c'est pour toi à quoi ça ressemble le futur de l'école?
Vaste question, le futur de l'école. je dirais qu'en fait, le futur de l'école ou de l'éducation en règle générale, c'est une éducation qui est beaucoup plus personnalisée, tu vois, centrée sur l'apprenant, sur son individualité. Et aujourd'hui, on est dans un système de masse, tu vois, qu'on a créé pour des raisons évidentes il y a bien longtemps déjà, et qu'il faut aujourd'hui transformer parce que notre monde ne ressemble en rien à ce qu'il était à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de faire en sorte que chaque enfant trouve sa place. Et il ne peut pas trouver sa place dans un système aussi massifié que celui qu'on a actuellement, en fait.
Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant que tu dises ça, parce que en fait, sur mon compte Instagram, donc le compte Instagram du podcast, j'ai posé la question aux followers, enfin aux personnes donc, qui suivent ce podcast, qui suivent le compte, quelles étaient les questions qu'ils avaient à poser sur ce sujet. Et effectivement, majoritairement, les questions qui sont revenues, c'est comment on fait pour les enfants qui ont des troubles 10, comment on fait pour les enfants qui sont surdoués, comment on fait pour les enfants qui sont hypersensibles, qui sont vraiment des questions spécifiques finalement.
Mais c'est essentiel cette question parce qu'en fait, ça nous montre bien, en fait, chaque enfant est différent. Bien sûr, il y en a quelques-uns qui rentrent dans la norme, dans le moule en fait, hein, qu'on leur propose, mais en soi, chaque enfant est différent, chaque enfant part avec un bagage totalement différent. Donc pour moi, c'est un peu une aberration l'impression, si tu veux, qu'on fasse encore cours à 30 élèves de la même façon, quoi. Mmh. Et aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de faire de la personnalisation. Et on pourrait s'y atteler. Mais c'est vrai que, voilà, on est encore dans un système, voilà, qui est de, un système de masse. Ouais, exactement. Ouais.
Et alors, justement, les dysfonctionnements du système éducatif aujourd'hui en France, il y a évidemment ce système de masse. Est-ce qu'il y a d'autres dysfonctionnements que tu as pu relever sur la France ?
Alors, en France en particulier, moi je dirais que tout simplement, nos enseignants ne sont pas assez valorisés, si tu veux. Ouais. Aujourd'hui, être enseignant en France est tellement dévalorisé que personne ne le veut devenir. Et on a un gap énorme entre le nombre d'enseignants qui est demandé aujourd'hui pour voilà, être partout sur le territoire et le nombre de candidats finalement au CAPES, à l'agrégation, etc. Et je pense qu'il faut absolument revaloriser ce métier parce qu'il est essentiel. C'est eux qui forment nos enfants au jour le jour. Il faut les former, il faut les valoriser et ça tout au long de leur carrière. Et d'autres pays, par exemple, que j'ai pu observer dans le cadre de ce bouquin que j'ai écrit, par exemple en Finlande, c'est un peu, tu vois, l'exemple typique, mais en Finlande, devenir prof, c'est un truc mais de fou, quoi. C'est-à-dire que devenir prof, c'est un métier tellement valorisé qui... Voilà, qui attire tellement de monde que tous les lycéens, à la fin, s'inscrivent à la fac d'éducation, veulent être prof. Et donc, il y a à peu près, sur la fac, sur la région d'Helsinki, il y a peut-être 10% de gens qui sont pris pour être prof à la fin, quoi. Donc, si tu veux, c'est aussi bien réputé qu'être médecin ou qu'être avocat. Et c'est la profession numéro un, quoi, que tout le monde veut faire. Parce qu'en Finlande, il y a cette culture de la transmission, d'être dans le partage de connaissances, etc. Et comme la Finlande, si tu veux, est un pays où il n'y a pas de ressources naturelles, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas grand-chose à part des forêts et des lacs, c'est quand même... Voilà, ils misent tout sur le capital humain. Ils misent tout sur l'éducation. Et ils investissent à fond. Enfin, clairement, ça, on a des très, très bons résultats aussi.
Et ils misent aussi sur les... Enfin, il y a une question de salaire ou c'est une question de reconnaissance sociale ?
Forcément, ils ne sont pas si bien payés que ça. Alors oui, bien sûr, ils sont mieux payés que les profs français, mais ça, ce n'est pas difficile. Hein. Mais en vrai, c'est la reconnaissance sociale. Et ça, c'est important, je pense.
Parce que ce que je trouve intéressant, c'est qu'en France, on avait cette reconnaissance sociale. C'est-à-dire que quand tu réfléchis finalement au village, les métiers clés, finalement, c'était le policier, le postier, le pompier, le professeur, tu vois, qui étaient les métiers clés dans le village et qui étaient extrêmement respectés. Et en fait, tous ces métiers-là, finalement, le médecin, donc l'infirmière, etc., qui sont tous des métiers, finalement, à part le médecin qui reste dans son statut, entre guillemets, bourgeois, tous les autres sont des métiers qui sont assez dévalorisés, finalement, mal payés et dévalorisés.
Mais tu sais pourquoi je pense que ça a à voir avec, si tu veux, le savoir qui était entre les mains du maître. Et donc, aujourd'hui, le savoir, il n'est plus dans les mains du maître. Le savoir, il est partout. Et donc aujourd'hui, le rôle pour moi de l'enseignant et ce que je vois dans beaucoup d'écoles quand je sillonne le monde, c'est vraiment un rôle qui évolue, qui change. L'enseignant, il devient un coach, un mentor, il devient un facilitateur d'apprentissage plus que quelqu'un qui va délivrer un savoir en mode top-down, tu vois, je me place devant vous et je vous délivre ce que je sais. Et avant, c'était ça. Et donc évidemment, il y avait ce respect, si tu veux, face à tout ce savoir. Mais aujourd'hui, voilà, le savoir est partout, la théorie on peut aller la chercher autre part. Ce qui importe, c'est l'échange, c'est la pratique, c'est comment on apprend aussi par le faire, comment on apprend par les projets, comment... Et ça, c'est des choses dont on sait aujourd'hui qui ont un impact